Vous écoutez
RMC.
Soyez les bienvenus dans la matinale week-end d'RMC, il est 8h.
RMC, la matinale week-end.
L'heure de retrouver Victor Pourchet pour le journal. Bonjour Victor.
Bonjour Anaïs et bonjour à tous. À la une, Gaza pilonnée depuis 6 mois aujourd'hui. La guerre entre le Hamas et Israël n'en finit pas, tout comme la souffrance des civils de chaque camp. Poser un lapin à votre médecin pourrait bientôt vous coûter 5 €. C'est une des annonces de Gabriel Attal sur la santé. Et puis le top départ du marathon de Paris, c'est en ce moment même et on sera en direct dans un instant.
Et puis juste après le journal, tiens, le médecin préféré des Français, invité d'RMC à l'occasion de la Journée mondiale de la santé. Michel Simès, qui a un appel à lancer, il vous demande de bouger. Le sport, dit-il, c'est la santé. Il sera avec nous à 8h10.
7 octobre, 7 avril, cela fait 6 mois, jour pour jour, que Gaza s'est embrasé.
Après les attaques du Hamas en Israël, après l'assaut aussi lancé en riposte par Tel Aviv dans l'enclave palestinienne. 6 mois de guerre et de souffrance, Caroline Philippe, que ce soit pour les proches des otages israéliens comme pour les Gazaouis.
L'espoir a disparu.
Il n'y a plus de travail, il n'y a plus d'école, il n'y a plus de vie.
Avant le 7 octobre, Asma enseigne le français au nord de l'enclave palestinienne. Mais depuis 3 mois, elle vit chez sa sœur, à Rafah, près de la frontière avec l'Égypte.
On est dans notre pays, mais on est réfugiés.
Là où s'entassent désormais plus d'1,5 million de Palestiniens.
Personne ne peut imaginer 6 mois sans bien dormir, 6 mois sans bien manger, sans bien boire, 6 mois sans électricité, sans réseau d'internet.
En Israël,
c'est une vie impossible.
Le temps s'est comme arrêté pour les familles d'otages. Sabrina Bellassen, proche de la famille Calderon, dont Ofer est toujours probablement aux mains du Hamas.
Je ne crois pas qu'une seule famille au monde peut continuer sa vie en sachant qu'un de leurs membres est kidnappé ou est détenu dans des conditions insupportables. La plupart d'entre eux dans des tunnels au fin fond de la terre.
Hier, Israël a annoncé avoir récupéré le corps d'un otage enlevé il y a 6 mois et tué en captivité, selon l'armée.
La libération de ces otages, une trêve, des combats, ce seront les objets de discussions diplomatiques au Caire où une délégation du Hamas est attendue aujourd'hui.
8h02, favoriser l'accès aux soins de ville, c'est l'objectif des annonces de Gabriel Attal aujourd'hui.
Et elles sont nombreuses, ces annonces. On fait le point avec vous, Solène Gardret. 4 grands piliers dans le programme du Premier ministre et d'abord l'augmentation du nombre de médecins.
Oui, et pour cela, les places en deuxième année de médecine passeront à 12 000 l'année prochaine et à 16 000 en 2027. Autre objectif, libérer jusqu'à 15 à 20 millions de rendez-vous chez les médecins généralistes chaque année, avec notamment le lancement d'expérimentations dans 13 départements où les patients pourront prendre rendez-vous directement chez un spécialiste ou un kiné sans passer par le médecin généraliste. Le Premier ministre veut ensuite augmenter les gardes de nuit et de week-end, notamment dans les territoires en manque de médecins. Ce devoir sera donc élargi dès cette automne aux infirmiers, aux dentistes et aux sages-femmes. Dernière mesure, la mise en place de la fameuse taxe lapin. Si un patient ne se présente pas à son rendez-vous, il pourra être facturé d'une pénalité de 5 €.
Cette taxe lapin, justement, qui divise les patients, vous l'entendiez chez les auditeurs de RMC, mais qui ravit les médecins libéraux. Sophie Bauer, la présidente de leur syndicat, était notre invitée.
C'est une excellente nouvelle, nous la demandons depuis longtemps parce que c'est devenu un espèce de sport national. Chaque médecin perd en moyenne 2 heures de consultation par semaine. Alors c'est effectivement une perte pour les médecins, mais c'est aussi une perte pour les patients qui sont en attente de rendez-vous. Donc à un moment, il faut responsabiliser les gens. On va déjà tester les 5 euros, si on s'aperçoit que ça ne suffit pas, il faudra peut-être une mesure encore plus drastique. Je vois qu'en Belgique, ils font carrément payer d'avance, c'est peut-être la solution si les 5 euros, ça ne suffit pas, si ce n'est pas suffisamment dissuasif.
La présidente du syndicat des médecins libéraux, Sophie Bauer. Dans l'actualité également, la garde à vue prolongée pour les 5 suspects de l'affaire Shamseddine. 4 mineurs et 1 majeur qui sont entendus depuis vendredi soir par les enquêteurs. Ils sont soupçonnés d'avoir participé au lynchage à mort du collégien de Viry-Châtillon. L'enquête est ouverte pour assassinat et violence en réunion aux abords d'un établissement scolaire.
À Grenoble, un homme va être présenté au juge d'instruction. Il est soupçonné d'être celui qu'on a appelé le violeur à la trottinette.
Le procureur doit en dire plus sur lui dans la journée, mais son arrestation hier marquait la fin d'une psychose qui dure depuis février dans la ville avec cette série de viols et d'agressions.
Vraiment, je suis soulagée et ça fait plaisir de savoir qu'on va pouvoir ressortir le soir sans inquiétude. On rentrait avant 21h parce qu'on avait peur. Et en fait, on n'arrivait plus à rentrer toute seule, chacune dans nos appartements respectifs, quoi.
Le fait de savoir qu'il a été enfin arrêté, ça me rassure quand même parce que j'ai quand même 20 minutes, 25 minutes de trajet jusqu'à chez moi. Donc.
En fait, je me disais, bah là, si je croise quelqu'un en trottinette, à tous les coups, c'est peut-être le violeur et peut-être que ça va ruiner ma vie. Donc bah oui, c'est rassurant.
Et dans l'actualité également, environ 2500 personnes sont attendues autour d'Emmanuel Macron au plateau des Glières en Haute-Savoie. Le président commémore à midi le 80e anniversaire du sacrifice de 105 résistants durant la Seconde Guerre mondiale.
8h05, on passe au sport, vous vous réveillez, on est au chaud nous en studio et pendant ce temps-là, d'autres se lancent à l'assaut du Marathon de Paris.
Et ça part des Champs-Élysées où on retrouve Léna Marjac. Léna, les premiers participants viennent de partir.
Oui, le départ vient d'être donné à l'instant pour la série élite, c'est-à-dire donc les hommes et les femmes les plus rapides. Mais malheureusement, aucune tête d'affiche française pour cette 47e édition du Marathon de Paris. La raison, un parcours trop exigeant et donc difficile de réaliser les minima olympiques pour se qualifier aux Jeux de Paris. Parcours avec un peu de dénivelé, plus de 42 km au cœur de la capitale. Départ sur les Champs-Élysées, direction ensuite la place de la Bastille, le bois de Vincennes et sur le retour, passage devant Notre-Dame, la Tour Eiffel et puis le bois de Boulogne avant une arrivée proche de l'Arc de Triomphe. Mais c'est un tracé qui a été revu il y a quelques jours parce qu'en raison des crues de la Seine, eh bien les passages sur les quais de Seine ont été modifiés. Et en tout, ce sont 54 000 participants qui fouleront les rues de Paris avec quand même des favoris. Les vainqueurs des trois dernières éditions sont présents. Un petit point météo parce que les conditions sont bonnes. Il fait déjà bon et surtout, il ne pleut pas.
Et ça donnerait presque envie. Merci Léna Marjac en direct du Marathon de Paris pour RMC. Autre course à vélo cette fois et sur les pavés. Paris-Roubaix, la reine des classiques, c'est à partir de 11h10. Et sinon, en Formule 1, je vous signale qu'après l'accident au départ entre Albon et Ricciardo au départ du Grand Prix du Japon, la course a repris sans ces deux monoplaces. Max Verstappen est en tête.
Et puis du foot, le PSG s'est tenu en échec à domicile contre Clermont hier.
Un partout contre le dernier de Ligue 1. Mbappé, Dembélé, Vitinha étaient remplaçants au coup d'envoi. Le coach Luis Enrique avait beau dire le contraire, Valentin Jamin, le quart de finale de Ligue des Champions contre Barcelone semblait bien dans les têtes parisiennes.
Avec des cadres parisiens au repos et deux jeunes de 17 ans titulaires pour la première fois, même le milieu clermontois, Johan Gatien, a senti que Paris avait un peu la tête au Barça.
Automatiquement, ils y pensaient, sachant que la compo n'était pas du tout celle de j'espère mercredi pour eux. Oui, ça nous a arrangé un petit peu et on a quand même souffert.
Il y a eu des erreurs, puis Paris a touché la barre transversale avant d'égaliser grâce à l'entrée de Mbappé, passeur, une gestion de l'effectif saluée par l'attaquant Marco Asensio.
Luis Enrique est un entraîneur qui sait comment garder un groupe tout entier concerné. C'est le fondement de cette saison et la philosophie de cet entraîneur. Et il faut qu'on soit tous prêts pour ce qui arrive. Et à ce moment-là, l'entraîneur décidera qui doit jouer ou pas.
Ce groupe semblait bien tourner mentalement vers le Barça mercredi et le coach Luis Enrique a hâte.
Je veux voir un grand spectacle avec deux grandes équipes et un bon esprit. Nous sommes dans une dynamique excellente depuis des mois. Je suis ravi de mon effectif. Il y a une grande union avec les supporters et je veux évidemment que Paris gagne.
Les supporters ont fini en poussant leurs joueurs et chanté des messages d'unité avant le choc.
Valentin Jamin, 6 matchs au programme aujourd'hui en Ligue 1. Ça commence à 13h avec Brest-Metz. À 15h, vous aurez un joli Reims-Nice. Que dire de cette affiche à 17h05, Monaco-Rennes, avant en clôture Nantes-Lyon à 20h45.
Merci beaucoup Victor et à tout à l'heure. C'est l'heure de jouer.
RMC, la matinale week-end. Le 10 minutes chrono.
C'est l'heure de jouer au 10 minutes chrono. Vous connaissez Marie ?
Mais oui, je connais. J'ai vraiment envie d'y participer cette fois-ci.
Mais vous n'avez pas le droit.
C'est vrai ?
Non, vous n'avez pas le droit. Non. C'est pour les auditeurs d'RMC, évidemment. Ce week-end à gagner, vous allez remporter un week-end de deux nuits de divertissement pour deux dans le casino hôtel Partouche de votre choix, c'est ça ?
Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Et vous profiterez aussi d'un repas à la brasserie du casino ainsi que 30 euros de crédit de jeu pour jouer sans en abuser, évidemment.
Évidemment. Vous appelez le 32-16, touche 4, vous envoyez le mot matin au 7-32-16, matin au 7-32-16 si vous voulez tenter votre chance. Bonne chance à tous, le gagnant sera avec nous à 8h25 sur RMC.
À suivre dans la matinale week-end.
À 8h40 sur RMC, retour sur le drame de la rue de Tivoli à Marseille. Il y a un an, plusieurs immeubles effondrés, 8 personnes tuées, 200 foyers délogés. Un an après, les familles attendent toujours d'être indemnisées. On sera avec Roland Bélessa, membre et représentant du collectif Tivoli, 9 avril.
À 8h20, la story sport avec Julian Boubnov. Vous nous parlez de quoi ce matin ?
Bonjour à toutes les deux. Des duos célèbres dans la vie, il y en a des duos célèbres. Mister et Mrs. Smith, Mickey et Minnie, Laurel et Hardy, Dupont et Dupont. Mais là, ce n'est pas tout à fait Dupont et Dupont. On change un nom et on arrive à l'un de nos duos préférés
Dupont
du sport français.
Dupont et Tabac.
Voilà, surtout dans
mais
le monde
oui,
de l'ovalie.
Mais oui, c'est l'événement, on retourne aujourd'hui. À tout à l'heure. Et puis, rendez-vous à tout à l'heure à 8h20 pour la Story Sport, évidemment. Et puis tiens, vous restez avec nous parce que dans un instant, on va parler de la place que le sport occupe dans la vie des Français. Parce que c'est bien beau d'accueillir les Jeux Olympiques, mais on ne fait pas suffisamment d'activités sportives en France. Pourquoi ? Comment encourager les Français à se mettre au sport ? On sera avec le célèbre médecin Michel Simès dans un instant sur RMC. À tout de suite.
RMC jusqu'à 9h30, la matinale week-end. Anaïs Castagna.
Bienvenue, vous écoutez la matinale week-end, il est 8h12 et le témoin RMC ce matin, c'est Michel Simès, le médecin préféré des Français et ambassadeur santé des Jeux Olympiques. Invité d'RMC en cette journée mondiale de la santé, bonjour Michel Simès.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. On va parler évidemment de votre combat pour inciter les Français à se bouger dans un instant. Mais d'abord une petite question sur ce que le Premier ministre a annoncé hier pour faciliter l'accès aux soins, notamment tiens, cette taxe lapin de 5 euros pour les patients qui n'honorent pas leurs rendez-vous médicaux ou qui annulent trop tard. Est-ce que ça va dans le bon sens selon vous ?
Ça va dans le sens d'une responsabilisation des patients et bien sûr que c'est une bonne... C'est une bonne chose. Vous savez, quand je consultais à l'hôpital Pompidou à Paris en ORL, il y avait pratiquement à chaque matinée de consultation au moins un patient qui ne se présentait pas, ce que nous on appelle des no-show, et qui prévenait pas. Et ce qui fait que finalement, quand vous additionnez un peu tous les no-show dans l'année, vous finissez par avoir des gens qui mettent 2 mois à avoir un rendez-vous parce qu'il y en a qui sont pas venus sans prévenir. Donc, je crois qu'il y a un moment, il faut responsabiliser, comme on doit responsabiliser en matière de prévention. On va parler de sport, d'activité physique, mais il faut responsabiliser le patient, bien évidemment.
Michel Simès, votre parole compte énormément pour les Français, tant et si bien que certains disent de vous que vous êtes leur médecin de famille. Et vous avez un conseil à leur donner en cette journée mondiale de la santé. Bougez-vous, parce que les Français sont trop sédentaires, selon vous. D'après un sondage OpinionWay, 47% des Français déclarent faire moins de 30 minutes d'activité physique par jour.
Alors, je vais évidemment qu'il y a beaucoup de travail. Et moi, je représente un collectif des plus grands experts sport santé en France, le collectif pour une France en forme. Il y a deux notions que les Français doivent bien connaître. La notion de sédentarité, c'est-à-dire le nombre d'heures que vous passez assis tous les jours. Au-delà de 7 heures, et calculez, vous allez voir que ça va vite. Au-delà de 7 heures, c'est mauvais pour la santé. Et l'inactivité physique, c'est quand vous ne faites pas les 30 minutes d'activité physique quotidienne recommandée par l'Organisation mondiale de la santé pour les adultes et 1 heure pour les enfants et les ados. Et les deux cumulés sont catastrophiques pour la santé. Alors oui, on est un pays qui ne bouge pas et on est un pays qui, pour qui la notion de sport est quelque chose, une sorte de variable d'ajustement. On se dit qu'on fera du sport quand on aura le temps. Il va falloir qu'on change tout, les mentalités. On profite des Jeux de Paris 2024 pour ça, mais ça continuera après avec la grande cause nationale. Mmh. Il faut qu'on fasse comprendre aux Français que le sport, l'activité physique doivent faire partie de l'hygiène de vie. Mmh. On ne fait pas du sport quand on a le temps, on prend le temps dans sa journée pour bouger.
Le gouvernement, vous le disiez, a fait du sport une de ses priorités, grande cause nationale. Au mois de janvier, Emmanuel Macron invitait tous les Français à bouger davantage. Je vous invite à faire au moins 30 minutes de sport par jour parce que c'est bon pour la santé, avait-il lancé dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux. 3 mois plus tard, on voit bien que ça marche pas, Michel Simès, que cet appel n'a pas pris, que compliqué.
Non, c'est de la médecine. On n'est pas, c'est pas un match de foot où à la fin des 90 minutes vous avez un score. La médecine demande du temps. L'éducation, c'est la répétition, y compris l'éducation sanitaire. Nous, on profite de l'extraordinaire caisse de résonance que sont Paris, les Jeux Olympiques Paris 2024 pour matraquer le message. Après, vous savez, moi, je faisais référence tout à l'heure à mon activité d'ORL. Quand j'ai un patient qui a un larynx qui est dans un mauvais état et qui risque de faire un cancer s'il continue de fumer, je lui explique, il va pas me tendre son paquet de cigarettes pendant la consultation. Il va réfléchir, il va prendre le temps, et puis un jour, il arrêtera de fumer. Nous, on veut faire rentrer dans la tête des Français le côté indispensable de l'activité physique. C'est un médicament universel. C'est bon pour tout, l'activité physique et le sport. Et une fois que c'est rentré dans le cerveau, ben, au bout de quelques semaines, de quelques mois, les gens vont se dire, ah oui, je me souviens, on m'a dit que, et là, je vais m'y mettre. C'est pas, on claque pas des doigts, c'est pas quelque chose qui va se faire en deux secondes, mais grâce à, et vous m'invitez ce matin pour en parler.
Bien sûr.
Il y a plein d'auditeurs qui sont en train de nous écouter et qui se disent, bah ouais, c'est vrai, tiens. L'activité
et des auditeurs qui nous disent aussi depuis ce matin, parce qu'on a ouvert le débat ce matin à 6h30, des auditeurs qui nous disent parfois c'est pas facile d'avoir du temps de faire du sport.
Mais c'est ça qu'on veut changer. Est-ce que c'est pas facile de trouver du temps pour vous brosser les dents le matin? C'est pas facile de trouver du temps pour se doucher? Il faut qu'on change les mentalités. Le sport, vous savez, moi tous les ans, je m'engueule avec des amis qui me demandent un certificat de contre-indication à la pratique de la piscine pour leurs enfants parce qu'ils ont peur qu'ils attrapent froid par les cheveux. Mais c'est comme ça la France. Donc aujourd'hui, il faut, mais c'est très bien ce que vous me dites sur la réaction des. Oui, effectivement, il faut faire un effort. Effectivement, il faut intégrer ça dans son planning de la journée. 30 minutes. On vous demande pas d'aller.
Mais c'est quoi? Soyons concrets, Michel Simès. C'est quoi? Parce que c'est pas forcément aller courir un marathon, justement. C'est une activité physique. C'est aussi monter les marches de l'escalier à la maison.
Exactement. Vous savez, vous rentrez dans n'importe quel immeuble. L'ascenseur, vous le trouvez tout de suite. L'escalier, il faut le chercher. Donc, quand vous êtes dans les transports en commun, vous descendez une station ou deux avant la station qui vous rapproche de votre bureau ou de votre domicile. Quand vous êtes face à des escaliers mécaniques d'un côté et des escaliers dits musculaires de l'autre, vous prenez le musculaire. Voilà, vous faites tout ça et vous marchez un peu plus vite que la normale, 30 minutes par jour. C'est pas, vous pouvez faire 2x15, mais c'est tous les jours. Quand vous vous brossez les dents le matin, et si vous n'avez pas le temps de vous brosser les dents dans la semaine, vous n'allez pas vous brosser 7 fois le dimanche matin. Donc vous faites pareil, vous faites du quotidien.
Depuis la rentrée 2020, les écoles ont mis en place 30 minutes d'activité physique quotidienne. Apparemment, c'est toujours compliqué. On en est loin. Hein.
Non, on n'en est pas loin. On a pratiquement généralisé toutes les écoles.
Je lisais que des enseignants disaient que c'était pas toujours facile à appliquer.
Non, les enseignants, je peux vous dire que ça fait des années qu'on se bat pour ça et qu'on commence à gagner la bataille. Malheureusement, il y a des enseignants qui étaient réticents. Je vais vous raconter une petite anecdote rapidement. J'ai une amie dont la fille est dans une école primaire où on avait mis en place cette activité physique quotidienne, ces 30 minutes par jour. Et le directeur de l'école a demandé à arrêter parce que ça se passait sous ses fenêtres et qu'il avait du mal à travailler. Donc vous voyez qu'il y a encore un peu de boulot, mais les enseignants sont convaincus aujourd'hui, alors qu'ils étaient très réticents au départ, en se disant, oh là là, les gamins, ils vont bouger 30 minutes dans la cour, ça va être infernal quand ils vont rentrer en classe. C'est tout le contraire qui se passe et ça a été prouvé scientifiquement. Ils sont plus concentrés dans l'heure qui suit.
Est-ce que le sport devrait prendre plus de place dans l'emploi du temps de nos enfants?
Évidemment, mais on devrait même avoir des après-midi. Si on pouvait réorganiser un peu le temps scolaire et faire en sorte que les gamins travaillent mieux le matin, où ils sont plus concentrés, où le cerveau est plus à même d'enregistrer les choses, et dans l'après-midi d'avoir des activités sportives, comme ça se passe aux États-Unis, au Canada, etc., on s'en porterait beaucoup mieux.
Michel Simès, ce matin sur RMC, on avait aussi un de nos auditeurs, Christophe, qui nous disait « Mais moi, je fais du sport au boulot. » Au boulot, on encourage la pratique d'une activité sportive. Ça m'a fait penser à ce que ces deux députés préconisent, Carl Olive, Claudia Rouault, qui veulent développer la pratique du sport en milieu professionnel.
Bien sûr.
Bonne idée selon vous?
Oui, excellente idée. Vous savez, on passe un tiers de notre temps au travail. Donc, évidemment que c'est une affaire personnelle, l'activité physique ou le sport. Mais les entreprises, et c'est là où Paris 2024 a joué un rôle extraordinaire, non seulement avec les partenaires premium qui sont les sponsors des Jeux Olympiques. Je vais remettre régulièrement le trophée GoFortran dans les grandes entreprises qui sont partenaires des Jeux Olympiques, qui ont mis en place des activités physiques et du sport au sein de leur entreprise. Il est essentiel, et ça commence vraiment beaucoup, que les entreprises proposent par exemple des subventions pour aller au boulot à vélo, mettre des salles pour que les gens puissent faire un peu d'activité
entre
physique,
midi et deux,
de l'échauffement. Voilà. Et c'est essentiel et ça prend. Je vous jure que nous, on est en plein milieu du dispositif. Ça prend, ça rentre bien dans l'esprit des entrepreneurs. Tout simplement parce qu'il y a je vais employer un gros mot, le retour sur investissement. C'est-à-dire que quand les gens sont bien au boulot et qu'ils font de l'activité physique, il y a moins d'arrêt de travail, moins d'arrêt maladie et ils sont plus efficaces au boulot.
Michel Simès, dernière question. Est-ce que vous êtes libre le week-end du 8-9 juin?
C'est personnel ou c'est collectif?
J'ai une invitation, Michel Simès, pour vous. RMC vous invite à venir battre un record du monde, le record du monde de la plus longue distance parcourue en relais par équipe en 24 heures. Ça aura lieu donc les 8 et 9 juin au Stade Charletti à Paris. Nos antennes seront délocalisées et on espère évidemment pouvoir compter sur votre présence. Ce sera justement un grand événement sport,
ce sera avec plaisir.
Santé. Et donc, on est ravis si on peut vous avoir à nos côtés. Merci beaucoup, Michel Simès.
Merci.
Ambassadeur donc santé des Jeux Olympiques et Paralympiques. Je rappelle le nom de votre dernier livre, Rien n'est impossible, mon histoire pourrait être la vôtre, paru en janvier dernier aux éditions en livre de poche. Et on se dit donc à très vite, Michel Simès. Il est 8h21, vous êtes sur RMC.
RMC, la matinale week-end.
Anaïs Castagna.
Soyez les bienvenus sur RMC, 8h22.
RMC,
la story sport.
Et l'histoire sport du jour, c'est avec vous, Julian Boubnov.
Bonjour Anaïs, bonjour Marie.
Bonjour Julian, c'est le retour aujourd'hui d'un des duos les plus connus du sport français. Ça se passe cet après-midi sur les antennes d'RMC, évidemment à 16h. On l'avait un petit peu perdu de vue, mais c'est le jour J. Le couple Dupont-Ntamack se reforme 8 mois après avoir débuté leur dernier match ensemble.
Oui, c'est la belle histoire du week-end, c'est le grand retour de la charnière tricolore. Alors pas avec l'équipe de France, mais avec le Stade Toulousain pour le 8e de finale de Champions Cup face au Racing 92 cet après-midi. 8 mois après la grave blessure de Romain Ntamack au genou avant la Coupe du Monde. Un moment assez douloureux pour les fans de rugby, rappelez-vous-en.
C'est chaud sur la ligne écossaise avec Rudy qui a perforé, mais il y a une grosse inquiétude sur Romain Ntamack qui se tient dans le genou depuis tout à l'heure, qui est au milieu du terrain. Pénalité pour les Écossais pour un grattage. Mais là, on est très inquiet pour Romain Ntamack. Il se relève, il boite, il se tenait le genou, il est en train de parler avec le staff médical.
Et malheureusement, Wilfried Templier, qui commentait le match pour RMC, avait raison de s'inquiéter. Le verdict était tombé quelques jours plus tard.
La nouvelle était redoutée après le match des rugbymen français face à l'Écosse samedi. Elle est confirmée, le forfait de Romain Ntamack pour la Coupe du Monde en septembre.
Alors c'est vrai que le retour de Ntamack est une excellente nouvelle pour le rugby français, mais il s'en est passé des choses, 8 mois pour les deux joueurs, malheureusement chacun de leur côté.
Mais depuis cette blessure, le duo Ntamack-Dupont n'a plus débuté une rencontre ensemble, et comme dans un couple, quand l'un est fragilisé, c'est l'autre aussi qui en pâtit, et plus généralement, c'est toute la famille qui est touchée, surtout lorsqu'il s'agit du moteur des Bleus.
C'est fini, victoire de l'Afrique du Sud, 29 à 28, ce soir, élimination de la France en quart de finale de sa Coupe du Monde. C'est l'Afrique du Sud qui affrontera l'Angleterre samedi prochain.
Et sans son compère de charnière, le rêve de Coupe du Monde d'Antoine Dupont et des Bleus s'est arrêté brutalement en octobre dernier. Et depuis, chacun a fait sa route de son côté. Romain Ntamack, lui, a soigné son genou durant de longs mois et a regardé ses copains du 15 de France à la télé pour le tournoi Destination en début d'année. Mais il a aussi pu suivre, bon, toujours à distance, son compère Antoine Dupont, parti vivre sa nouvelle aventure tricolore et sa préparation avec le rugby à 7 en vue des JO de Paris cet été.
Et de fil en aiguille, les chemins des uns et des autres finissent toujours par se recroiser. C'est ce qui s'est passé le week-end dernier, Julian.
Alors, recroiser, c'est justement le beau mot, oui, parce que Romain Ntamack est revenu officiellement de blessure il y a une semaine et a même pu jouer quelques minutes face à Pau lors de la victoire du Stade Toulousain en top 14. Il a même pu passer quelques minutes en compagnie d'Antoine Dupont sur la pelouse dans les derniers instants du match. Et ça, forcément, ça a plu au principal intéressé.
J'ai retrouvé un peu les sensations que j'avais avant de me blesser, donc je suis content, j'ai pu prendre des duels, prendre des contacts, et donc c'est des bonnes sensations qui reviennent, et au moins l'appréhension part assez rapidement.
Mais il n'y a pas que Romain Ntamack qui était ravi de faire son retour, Antoine Dupont lui aussi il a apprécié.
C'est comme si on ne s'était jamais perdu, donc ça nous a rassurés. On sait la qualité qu'a Romain, on sait aussi son sang-froid et sa capacité à être présent dans les matchs qui comptent.
Et ces matchs qui comptent, justement, ils arrivent à grands pas et dès cet après-midi à 16h sur RMC où tous les deux seront titulaires pour la première fois depuis 8 mois pour la rencontre face au Racing 92 en 8e de finale de Champions Cup avec deux objectifs. Le premier, aller chercher une place en quart de finale et le second, prouver aux adversaires que le duo est bel et bien de retour pour leur jouer des mauvais tours.
Rendez-vous donc 16h. Merci beaucoup Julian Boubnov pour la story sport à retrouver en podcast sur l'appli RMC. Allez, c'est l'heure de découvrir le nom du gagnant du 10 minutes chrono.
RMC, la matinale week-end.
Le 10 minutes chrono.
C'est Tiffaine qui a gagné. Bonjour Tiffaine.
Bonjour.
Voilà. Comment ça va Tiffaine? Nous aussi.
Ça va très très bien.
Bah oui, évidemment la journée commence bien. Vous savez ce que vous avez gagné Tiffaine?
Oui, absolument.
Un week-end de deux nuits, de divertissement pour deux, dans un casino, hôtel Partouche, de votre choix. Il y a plein de destinations, Le Havre, Aix-en-Provence. Je ne sais pas ce qui vous arrange, je ne sais pas si vous avez déjà une idée, si vous avez déjà
repéré. Ça va être le soleil. Ah, oui, je suis allée repérer, en fait, avant de m'inscrire. Carrément.
Vous aurez un repas à la brasserie du casino et puis, je crois, quelques crédits pour jouer. Mais pas d'abus, Tiffaine. L'idée, c'est pas de.
Non, jamais.
De vous encourager à faire n'importe quoi. On espère que ça sera gagnant, d'ailleurs. Vous nous tenez au courant.
Oui.
On ne sait jamais.
Oui, on ne sait jamais. Je vais peut-être revenir millionnaire.
Bon, quel est le programme de la journée, Tiffaine?
Alors, le programme de la journée, j'ai ma sœur qui va passer cet après-midi prendre un petit café à la maison, tranquillou, parce qu'au niveau météo, ça n'a pas l'air d'être top.
Ah non.
Donc, je pense qu'il doit me rester des chocolats de Pâques. On va faire après-midi chocolat.
Ah, c'est pas mal pour un dimanche.
À la cool.
Ouais, des petites poules, des petits œufs. Mais quel bon programme, quelle bonne idée. Tiens, je vais faire pareil en rentrant. Merci, Tiffaine. Passez une excellente journée. Bravo à vous. Et puis, attend évidemment le petit mot. Vous nous racontez comment s'est passé le week-end. Et surtout si vous avez gagné. Il est 8h27.
Avec grand plaisir. Merci beaucoup.
À très vite, Stéphane.
Gagnez votre séjour dans la matinale week-end sur RMC avec les casinos, hôtels et restaurants Partouche. Partouche, un large choix de lieux pour des moments uniques de bien-être et de divertissement.
Vous restez avec nous dans un instant. La météo suivie du journal. À tout de suite. La météo avec vous, Marie. Franck Ordoux aujourd'hui.
Oui, c'est ça, des températures très douces et au-dessus des normales de saison. Ça devrait se poursuivre jusqu'à mardi. Ce matin, les températures sont comprises entre 8 et 19 degrés. Et cet après-midi, ça se rafraîchit globalement. On perd 5 à 10 degrés dans l'ouest, mais dans le sud-est, ça reste encore très chaud. Avec des températures qui iront de 15 à 28 degrés. Alors, côté du ciel, le ciel est voilé sur l'ensemble du territoire. Avec même quelques pluies de la frontière belge jusqu'à une partie de la façade atlantique. Il y a un voile bien épais aussi. Quelques ondées de la Nouvelle-Aquitaine jusqu'à l'ouest Lorraine et de la Bretagne aux côtes de la Manche. Ce sera une alternance de nuages et de soleil. Partout ailleurs, un voile moins dense vous accompagnera. Et cet après-midi, peu d'évolution à part le voile de la frontière allemande jusqu'à la Méditerranée qui sera beaucoup plus léger que le matin.
Soyez les bienvenus sur RMC. Merci de nous rejoindre. Il est 8h31.
L'heure pour vous de ne rien manquer de l'actualité.
Tout ce qu'il faut savoir, tout ce qu'il faut entendre ce matin, toute l'actu en 5 minutes avec vous, Stéphane Duguay. Bonjour Stéphane.
Bonjour Anaïs, bonjour Marie, bonjour à tous. 6 mois de guerre à Gaza. Aujourd'hui, 1 500 000 réfugiés au sud de l'enclave palestinienne dans des conditions de vie désastreuses. La crainte d'un déclassement des médecins de famille après les annonces santé de Gabriel Attal et l'appel d'un éducateur. Il veut plus de moyens pour lutter contre la violence entre les jeunes.
Aujourd'hui, cela fait 6 mois, jour pour jour, que la guerre entre Israël et le Hamas a commencé après les attaques du 7 octobre.
1170 victimes israéliennes. Ce jour-là, plus de 33 000 morts côté Gazaoui depuis la réplique israélienne, des chiffres donnés par le Hamas. Les bombardements de l'État hébreu, eux, ne s'arrêtent pas. Écoutez le témoignage d'Asma, professeure de français à Khan Younes, au sud de la bande de Gaza. Elle a dû se réfugier chez sa sœur après une frappe israélienne sur son logement il y a 3 mois.
Personne ne peut imaginer 6 mois sans bien dormir. 6 mois sans bien manger, sans bien boire. 6 mois sans électricité, sans réseau d'Internet. On a toujours des difficultés pour avoir des appels téléphoniques simples. On est dans notre pays, mais on est réfugié. Il n'y a plus de travail, il n'y a plus d'école, il n'y a plus de vie, il n'y a pas d'espoir.
Des négociations pour un arrêt des combats contre des libérations d'otages israéliens doivent reprendre aujourd'hui au Caire en Égypte.
On en vient aux annonces de Gabriel Attal sur la santé, des annonces qui mettent en colère des syndicats de médecins.
Oui, celles sur le désengorgement des cabinets de généralistes. Les patients de 13 départements test pourront aller chez un spécialiste directement sans passer par leur généraliste. Et cela ne plaît pas à Luc Duquesnel, président du syndicat de médecins généralistes CSMF.
Ce gouvernement, plutôt que de rendre le métier de médecin attractif, trouve des pansements pour essayer de permettre, en effet, pour les Français, de pouvoir accéder à certains soins. Finalement, on n'aura bientôt plus de médecin de famille. C'est vraiment dommage parce que le médecin traitant, il a un rôle essentiel. C'est celui qui fait la synthèse de tout, qui adresse le patient vers le bon spécialiste. Si on laisse le patient tout seul aller voir d'abord le gastro-entérologue, ensuite le pneumologue, ensuite le cardiologue, on crée un afflux de patients vers ces médecins spécialistes. Et moi, au lieu d'avoir des rendez-vous en septembre 2025 pour mes patients qui vont aller voir un cardiologue, eh ben, ça sera 2026.
Parmi les autres mesures, le gouvernement prépare une loi pour faire payer 5 euros aux patients qui n'iraient pas à un rendez-vous médical sans prévenir.
Dans l'actualité également, une semaine marquée par des rixes à la sortie de plusieurs collèges.
Et cette question, comment enrayer la violence chez les jeunes? Je voulais vous faire entendre ce matin Fabien, il est éducateur à la MJC de Corbeil-Essonne. Pour lui, il manque de moyens.
Il y a des problèmes, il y a des jeunes qui sont en colère, il y a des jeunes qui sont haineux, qui sont prêts à commettre des choses horribles. Et derrière, les moyens humains, chaque année, ils baissent. Comment tu fais pour gérer la même charge de travail, les mêmes difficultés avec moins de moyens? On dit les parents, ils devraient être derrière leurs jeunes, c'est pas si simple que ça. T'as des parents qui vont bosser, t'essayes de donner tout ce que tu peux pour ton enfant, mais tu ne peux pas tout contrôler. Tu sais pas ce qui se passe quand à 16h30 il a fini les cours. Toi, t'es au travail, il rentre tout seul à la maison, mais peut-être qu'entre temps, il va se faire engrainer, t'en sais rien. En termes d'adultes, qui prend le relais?
Fabien, éducateur à la MJC de Corbeil-Essonne, c'est à côté de Viry-Châtillon où Chemseddine est mort vendredi après avoir été tabassé à la sortie du collège la veille. Mardi, à Montpellier, Samara avait été rouée de coups, elle a été hospitalisée. Une autre jeune de 14 ans a été hospitalisée à Tours, jeudi, elle aussi après avoir été frappée.
8h34, le sport a resté positif malgré le nul, un partout contre la Lanterne Rouge, Clermont.
C'est le mantra de Luis Enrique, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, avant de recevoir le Barça en Ligue des Champions mercredi.
On est dans une bonne dynamique depuis des mois maintenant. On ne va pas arrêter de lutter pour obtenir des résultats chaque match. Je suis très content de l'attitude de mes joueurs, de leur caractère. Avec un peu plus de temps, peut-être même qu'on aurait pu l'emporter.
Un partout entre le PSG et Clermont. Donc l'autre résultat d'hier, c'est aussi un partout entre Lens et Le Havre. À suivre aujourd'hui sur RMC, 13h, Metz se déplace chez le deuxième de la Ligue 1, Brest. À 15h, duel en bas de tableau, Montpellier-Lorient. Il y a aussi Toulouse, Strasbourg, Reims, Nice. À 17h05, Monaco reçoit Rennes. Et ce soir, Nantes-Lyon, coup d'envoi 20h45.
Et on n'oublie pas le cyclisme avec le Paris-Roubaix et le favori, Mathieu Van Der Poel.
Et il a hâte de rouler sur les 55,7 km de pavé. Mythique épreuve du Paris-Roubaix.
Ouais, c'est, il y a toujours beaucoup de stress aussi dans le peloton et je pense que faut être relax sur les pavés et pas tenir le guidon trop serré. Je pense que c'est ça le grand problème.
Mathieu Van Der Poel s'élancera avec les autres coureurs à 11h25 pour la 121e édition du Paris-Roubaix.
À journée mondiale de la santé, Michel Simès nous le disait sur RMC. Il faut faire 30 minutes d'activité sportive par jour, d'activité physique par jour.
Sinon, c'est catastrophique pour la santé, il l'a dit. Alors pourquoi pas se mettre à la course à pied et viser le marathon, 42 km à Paris, la moitié des 54 000 coureurs aujourd'hui font leur tout premier marathon.
C'est une idée qui m'était venue un soir chez moi et je me suis dit bah pourquoi pas me lancer le défi de faire le marathon. Du coup bah j'ai pris mon dossard et je me suis dit bah allez c'est parti faire la prépa quoi. Pas bu d'alcool depuis un mois, pas mangé de gras depuis un mois. Je suis un peu à bout là. Vivement lundi.
J'avais dit que je ferais un marathon avant mes 25 ans et là du coup je fais 24 bientôt là dans 3 mois. Et j'avais dit que c'était cette année ou jamais.
Alors, on est très sereine, on est très contente, on est prête, on va prendre du plaisir et l'objectif voilà, c'est de le finir.
Alors moi mon objectif ça va être de faire moins de 4 heures.
Et vous pensez que vous allez réussir ?
J'espère, on n'est jamais sûr.
Ça donne presque envie d'enfiler les baskets et un short pour les rejoindre.
Je retiens le prêt.
Oui, non, la course, c'est pas trop mon truc.
Non, mais activité physique, oui, ça, mais oui. Après, on a le droit de choisir. C'est on a ça. Le droit de pas se lancer dans un marathon tout de suite. Mais bon, moi, je leur dis surtout chapeau, bon courage. Hein, ils sont plein dedans, donc voilà.
On pense bien à eux.
Hein, important. Et buvez de l'eau, c'est important.
Voilà. Merci beaucoup, mon cher Stéphane. Vous restez bien avec nous sur RMC. On est ensemble jusqu'à 9h30 avec Perico Légas. Tiens, ce matin, on va parler de ces jus de fruits exotiques qui n'ont d'exotique que le nom, parce qu'à l'intérieur, il y a surtout du jus de pomme. Quand vous regardez la composition, on en reparlera dans le beurre et l'argent du beurre à partir de 9h10.
À 8h50, le coup de main conso avec vous, Stéphane Duguay, qui va nous parler du coup d'une façon de voyager pas cher, l'échange de maisons, ça se fait de plus en plus. Mais que faut-il savoir avant de se lancer? Quelle garantie demander? On y revient avec vous, Stéphane, à 8h50.
Bah oui, je vous donne tous les conseils. Et si vous êtes locataire, rassurez-vous, vous êtes aussi concerné.
Les bons conseils de Stéphane Duguay à 8h50. D'abord, retour sur le drame de la rue de Tivoli. Rappelez-vous, c'était il y a un an. Plusieurs immeubles effondrés, 8 personnes tuées, 200 personnes délogées. Un an après, eh bien, les victimes attendent toujours d'être indemnisées. On sera avec Roland Bélessa, membre et représentant du collectif Tivoli, 9 avril, pour en parler. À tout de suite.
RMC, 6h30, 9h30, la matinale week-end.
Anaïs Castagna.
Il est 8h40 sur RMC, ravie de vous accompagner jusqu'à 9h30.
L'entretien RMC.
L'invité de l'entretien RMC ce matin, c'est Roland Bélessa.
Membre et représentant du collectif Tivoli 9 avril. Bonjour Roland Bélessa.
Bonjour.
Pour revenir donc sur ce qui s'est passé rue de Tivoli à Marseille il y a un an, dans la nuit du 8 au 9 avril, une explosion de gaz provoquait l'effondrement de plusieurs immeubles. Bilan, 8 personnes tuées, 200 familles délogées, des familles qui attendent toujours d'être indemnisées. Merci d'être avec nous ce matin sur RMC pour témoigner et alerter. Un an après, quelle est la situation ?
Bonjour. Un an après, c'est vrai que le bilan est que l'urgence a été traitée finalement dans les premiers mois, mais après, dans tout ce qui doit être traité sur le long terme, on a l'impression qu'on est à peu près toujours au même stade que quelques semaines ou quelques mois après l'explosion.
C'est-à-dire
que finalement, les travaux, finalement, les durées de délogement, il reste encore 50 familles délogées, les durées de délogement s'allongent, hein, parce que effectivement, les sécurisations des immeubles prennent du temps, notamment lié au fait que les assurances discutent entre elles pour savoir, par exemple, de qui a la responsabilité en fonction des travaux. Donc tout ça allonge les travaux de sécurisation. Mmh. Et toutes nos revendications, finalement, pour avoir un dispositif ou être indemnisé rapidement, sont pour l'instant, finalement, complètement balayées d'un revers de main et refusées par les assurances.
Mais qu'est-ce qui bloque exactement ? C'est l'établissement des responsabilités. Tant que c'est pas établi, vous pouvez pas être indemnisé ?
Voilà, c'est clairement la position actuelle des assurances, hein, parce qu'il y a plein de domaines d'accidents où finalement il y a des dispositifs qui permettent aux victimes d'être indemnisées avant l'établissement des responsabilités, quand on sait que les responsabilités sont trop longues finalement par rapport aux besoins des victimes. Et dans ces accidents, on va dire collectifs, bâtimentaires, il n'y a pas de disposition législative, donc les assurances effectivement disent ben faut attendre l'établissement de la responsabilité civile qui va arriver probablement dans de nombreuses années, si ce n'est peut-être 10 ans. Et donc en attendant, les victimes finalement sont renvoyées à leur contrat individuel.
Vous voudriez être indemnisé plus rapidement, d'autant que vous continuez à rembourser un crédit, je crois, pour l'appartement qui s'est effondré. Vous habitiez dans l'appartement l'immeuble qui s'est totalement effondré, c'est ça ?
Voilà, moi j'habitais en fait dans l'immeuble qui s'est effondré suite à l'explosion du 17 rue de Tivoli. C'est pour ça que j'ai la chance d'être encore en vie, c'est-à-dire que voilà, nous on était à côté, on a quand même de la chance parce que notre immeuble s'est effondré quelques heures après l'effondrement du 17.
Avec votre femme, vos deux enfants, 7 et 10 ans, d'ailleurs un an après, comment ça va ? J'imagine que le drame a marqué les enfants, votre épouse ?
Alors oui, le drame nous a marqué tous de façon assez différente, hein, finalement, et c'est là où on voit que c'est très compliqué et en fait c'est pour ça qu'on dit que c'est un accident collectif avec un traitement collectif, c'est-à-dire que si on rentre dans chaque cas individuel, chaque cas est très différent. Donc moi par exemple, je me suis peut-être finalement réfugié dans le combat parce que je considérais que c'était une injustice, quitte à m'épuiser, à développer vraiment une colère. Donc je sais pas si finalement le traumatisme va parvenir après. Ma femme, elle, c'est différent, c'est vraiment tout ce qu'elle a perdu, ce qu'elle voulait donner à ses enfants, ce qu'elle a hérité de ses grands-parents, etc. Les enfants, c'est encore un peu différent. Ils sont, pour l'instant, on a l'impression plus résilients. Ils ont été très accompagnés au début. On a l'impression que pour l'instant, c'est passé. Mais par contre, on ne sait pas si à l'adolescence ou des choses comme ça, des éléments ne peuvent pas ressortir.
Et vous vivez où en ce moment ?
Alors, c'est une chance et une malchance, entre guillemets. J'ai eu la chance de trouver un appartement à louer, finalement, pas très loin de l'endroit où j'habitais avant. C'est à la fois une malchance parce qu'on passe finalement tous les jours devant notre trou, parce que mes enfants ont l'école finalement juste quelques numéros au-dessus dans la rue. Mais c'était important pour eux, je pense, de conserver finalement le même cadre et de ne pas leur changer aussi les amis et leur cadre de vie.
Mais du coup, c'est difficile de tourner la page, j'imagine, quand on reste dans le même quartier. De même que, en fait, tant que vous n'avez pas été indemnisé, c'est difficile d'aller de l'avant.
C'est effectivement très difficile d'aller de l'avant parce que on doit quotidiennement finalement se battre, que ce soit pour plein d'éléments, par exemple, enfin dès le début, je peux vous donner un exemple, moi mes clés de voiture ont été perdues forcément dans l'immeuble. On m'a appliqué la franchise sur les clés de voiture parce que c'est dû à mon sinistre, alors on veut dire par rapport à tout ce que j'ai perdu, c'est pas énorme, mais c'est dû à mon contrat automobile. On doit se battre sur l'indemnité de relogement. On doit se battre pour savoir, comment est-ce que, finalement, qu'est-ce qui est couvert, finalement, dans l'indemnisation du bien. Il y en a qui doivent se battre parce que est-ce que leur chauffage, il est détruit par ceux qui ont fait les travaux de sécurisation, etc. Donc, tous les jours, finalement, on a des choses où on ne sait pas exactement où on en est. On sait qu'on va traîner ça pendant des années. Donc, la reconstruction est quand même très, très difficile. Quand à côté de ça, on n'a pas de cadre, et sur chaque élément, on doit se dire, est-ce que finalement on se fait avoir, est-ce que c'est normal, et donc c'est très très compliqué.
Oui. Vous dites des années l'indemnisation des victimes avant l'établissement des responsabilités. Je crois que c'est ce qu'on finit par obtenir les sinistrés de la rue de Trévise à Paris, après 3 ans de lutte tout de même, mais je crois qu'ils l'ont obtenu. Hein.
Oui, alors justement, on est très en lien finalement avec la rue de Trévise. Hein. C'est vrai que notamment, alors on a la chance d'avoir la Fédération nationale des victimes d'attentats et d'accidents collectifs, hein, la FENVAC qui nous a beaucoup aidé au début. On a des liens avec les associations Trévise Ensemble et VRET. Et c'est vrai que on est en lien avec eux. Donc déjà, ce qui est triste, c'est que oui, ils ont obtenu un accord cadre d'indemnisation au bout de 2 ou 3 ans de lutte, une action en justice menée justement par eux. Hein. Et on voit que ce qu'ils ont obtenu, ça fait absolument pas jurisprudence. Donc on va devoir se battre de la même façon, avec un résultat à la fin qui est un peu aléatoire. Et une fois que cet accord-là est obtenu, là on est encore en échange avec eux. Il y a encore du temps aussi, parce que ça permet d'avoir un cadre pour discuter, mais les discussions demeurent finalement difficiles une fois que c'est établi. Donc il y a encore des gens en rue de Trévise qui sont toujours pas indemnisés. Donc si on part sur le même parcours finalement, ça va prendre les mêmes durées, on pense.
Vous êtes loin d'être au bout, en fait. Vous avez écrit au gouvernement, je crois, hein, à la fin du mois dernier.
Oui, tout à fait, on a écrit au gouvernement, parce que à un moment donné, il y a toujours des accidents de ce type-là. Enfin, là, on peut parler de Trévise, d'une autre. Il y a eu la rue Saint-Jacques déjà aussi juste après. Et donc, on en arrive toujours au même discours, qui est de dire, on en appelle à la morale des assureurs. Il y a beaucoup d'annonces au début du gouvernement qui est de dire, non, on appelle à la morale des assureurs, on sera à côté de vous. Mmh. Et des assureurs qui s'achètent du temps, finalement, en faisant des petites annonces, en prolongeant le relogement de mois en mois, en attendant de voir si ça va passer, si ça va pas passer. Et c'est vraiment une stratégie pour eux, pour rien faire, pour attendre qu'on s'épuise. Mais à un moment donné, le gouvernement doit prendre ses responsabilités et faire une évolution législative pour qu'il y ait un cadre qui contraigne les assurances à le faire.
Merci beaucoup Roland Bélessa d'avoir témoigné ce matin sur RMC. Membre et représentant du collectif 9 avril, on va suivre ça, votre combat évidemment sur RMC. 8h47 sur RMC, on en revient à un autre sujet d'actualité. Ce matin, les annonces de Gabriel Attal en matière de santé. Le Premier ministre a fait plusieurs annonces pour faciliter l'accès aux soins, notamment cette pénalité de 5 euros qui s'appliquerait aux patients qui annulent un rendez-vous médical au dernier moment, voire qui n'y vont pas du tout. Bonjour Claudine, ça vous fait réagir au 32-16?
Ah oui, bonjour. Oui, je suis un peu en colère.
C'est-à-dire, vous ne comprenez
que,
pas...
Les médecins, ouais, quand eux, ils vous reçoivent, qu'ils ont 2 heures de retard, ils ne s'excusent pas. Hein. Nous, on ne leur demande pas de nous donner 5 euros. Et là, c'est nous qu'on va payer. Mais c'est toujours nous qu'on paye. Et avant, le médecin, quand il vous recevait, qu'il fallait aller chez un cardiologue, c'est lui qui prenait le téléphone, qui prenait rendez-vous. Maintenant, allez chez le cardiologue, on vous donne le nom, même pas le numéro de téléphone, et on se débrouille. Alors, et puis n'importe comment, des médecins, nous, moi j'habite dans l'Aveyron, les médecins, on les compte sur le bout des doigts.
Mais justement, les solutions qui ont été énoncées, le but c'est de faire plus de place.
Plus de place en payant 5 euros.
Mais c'est-à-dire de mieux s'organiser, d'en finir avec ces rendez-vous qui sont pris et qui ne sont pas honorés parce qu'il y en a. Et ces 5 euros, ça ne s'appliquerait pas à tout le monde, c'est-à-dire que vous avez 24 heures.
Parce que nous, on y
c'est,
va.
C'est 24 heures avant.
Oui, non, mais des fois, vous pouvez pas avertir 24 heures avant si vous avez un accident, si vous avez quelque chose. Comment ils vont contrôler ça? Comment ils vont contrôler ça? N'importe comment, c'est toujours les mêmes qui payent. On paye pour tout. Et moi, je commence à en avoir. J'ai 70 ans. Mmh. Je commence à en avoir, mais alors, ras le bol. Mmh. Voilà.
Ça vous arrive souvent, vous, d'annuler comme ça un rendez-vous
pas
d'animaux?
Du tout. Alors, non. Pas du tout.
Mais c'est le principe.
Parce que moi,
qui vous
quand
choque.
Je prends rendez-vous, je leur dis toujours, si j'ai un problème, je vous appellerai avant. Jusqu'à maintenant, je touche du bois. J'ai toujours eu mes rendez-vous. Mmh. Et puis maintenant, c'est les rendez-vous, c'est nous qu'on les prenne. Et avant, moi, je suis allée chez le cardiologue sans passer par le médecin. Et maintenant, il faut aller chez le médecin. Mais comme on n'en a pas, alors comment on fait pour se soigner?
Là, voilà. Justement, l'idée aussi, c'est d'aller plus directement vers les spécialistes. L'idée, c'est de tester ça aussi. Ça, c'est peut-être une bonne idée, justement. D'éviter de passer systématiquement par le médecin généraliste.
Sur un bout de papier.
Ouais. Vous n'êtes pas convaincu. Je vous sens pas convaincu par ce qui a été annoncé hier.
Mais non, parce que, écoutez, moi, j'en ai ras le bol. Ça change toutes les semaines. C'est bleu, c'est blanc, c'est blanc, c'est bleu. Non, mais il faut arrêter. Il n'y en a pas de médecins. Après, nous, on nous dit, il ne faut pas aller aux urgences. Mais qui nous soigne les week-ends? Vous appelez le 15, on vous dit, prenez Doliprane. Mais ils ne savent pas ce que vous avez. Mais où on va, où nous avons les médecins, hein. Moi, quand mon fils était malade, il venait la nuit en pyjama. Maintenant, il ne se déplace même pas. Alors, je veux bien, ils ont du boulot, mais ils font rien. Ils vous donnent le papier, prenez rendez-vous et débrouillez-vous.
Pas à la hauteur, quoi. C'est un peu ce que nous disait Sophie Bauer, présidente des syndicats des médecins libéraux.
Ils nous donnent des conseils. Celui qui passe à Radio Monte Carlo, là, aux grandes gueules, il soigne ses patients quand, lui. Déjà, il n'y a pas de médecin. Ils sont tous à la télé. Même celui qui est venu pour le sport. Je veux bien les Jeux Olympiques.
Michel Simès.
Ça coûte un bras.
On sort un peu du sujet. Mais j'ai compris, Claudine. Vous êtes sceptique. Vous pensez que ces solutions, ces annonces ne vont rien régler au problème donc de l'accès aux soins en France. Eh bien, vous réagissez justement ce matin sur RMC. Vous avez la parole. Merci, Claudine, d'avoir composé le 32-16. Il est 8h51. Vous restez avec nous. Dans un instant, on retrouve Stéphane Duguay qui a plein de conseils à vous donner si vous voulez essayer l'échange de maison. À tout de suite.
RMC, la matinale week-end.
Anaïs Castagna.
Du métal pour vous réveiller ce matin sur RMC, parce que oui, dans le bonus RMC, dans deux minutes, on va vous parler de cette exposition sur le métal qui va ouvrir à Paris, qui ouvre à Paris.
Mais d'abord...
RMC.
Le coup de main conso.
RMC s'engage pour votre pouvoir d'achat. Comment faire des économies au quotidien avec Stéphane Duguay.
Bonjour Stéphane, vous nous aidez à ne pas payer notre logement de vacances, pouvoir partir à moindre frais grâce à l'échange de maison.
Eh oui, et pour échanger sa maison, première chose, il faut d'abord s'inscrire sur un site internet.
Mais
ça concerne aussi les locataires, on y revient juste après. Donc même si vous n'êtes pas propriétaire, restez bien à l'écoute de ce qui suit. Donc il faut s'inscrire sur un site, il y en a plusieurs. Ouais. Il y a Home Exchange, qui est le premier site dans le monde et en France. Il y a aussi Homelink, Troc Maison, Intervac France ou encore Switch Home. Si je prends l'exemple de Home Exchange, vous vous inscrivez, vous mettez une annonce avec votre maison, de belles photos, on évite les photos trop sombres, vous rajoutez une petite description de vous et votre famille, et ça c'est très important pour faire connaissance avec les autres échangeurs, donc mieux vaut ne pas mentir sur vos informations. Charles-Édouard Girard est le fondateur d'Home Exchange.
Il faut ne pas en rajouter, être soi-même dans sa description. On met un peu de soi dans sa description de son profil, on décrit un peu sa famille, on décrit un petit peu le contexte dans lequel on vit, c'est important. Et après, dans sa maison, il faut être honnête et dire les choses qui vont, les choses qui vont pas. Voilà, s'il y a par exemple une pièce qu'on ne peut pas utiliser, eh ben, il suffit de l'indiquer dedans, il n'y a pas d'obligation de prêter toutes les pièces. Il faut être assez précis dans les indications.
Voilà, une pièce qu'on ne peut pas utiliser, donc une pièce dans laquelle on peut mettre ses objets précieux, par exemple. Pensez-y, ça peut vous éviter des mauvaises
surprises. Ah oui,
surprises.
C'est mieux, ouais.
Et oui, justement, Stéphane, pour les plus inquiets à l'idée d'échanger sa maison, est-ce qu'il y a des risques?
Le fondateur d'Home Exchange, il est plutôt rassurant. Il dit que la casse, ça ne concerne qu'un pour cent des séjours, donc que c'est assez marginal. Et puis, normalement, votre assurance habitation multirisque couvre les dégâts, puisque les gens qui viennent chez vous sont considérés comme vos hôtes. Passez quand même un petit coup de fil à l'assurance pour vérifier que votre contrat vous protège bien.
Mais surtout, c'est possible aussi pour les locataires. Alors ça, vous voyez, je ne pensais pas.
Bah ouais, parce qu'en fait, il n'y a pas d'échange d'argent. Rien ne vous interdit, si vous louez votre logement, de l'échanger, puisque ce n'est pas comme une sous-location sur Airbnb pour gagner de l'argent. Relisez quand même bien votre bail, parce que c'est très rare, mais ça arrive que l'échange soit interdit dans le contrat, c'est stipulé. Vous pouvez aussi prévenir votre propriétaire, même si vous n'êtes pas obligé de le faire.
D'accord, on comprend que c'est un bon plan parce qu'on ne paye pas l'hôte, mais est-ce que c'est vraiment 100% gratuit?
Alors, pas sur tous les sites. Home Exchange, si je continue de prendre cet exemple-là, il demande 160€ par an, mais une fois que vous avez payé cette somme, ça vous fait gagner des points.
Ah oui, il faut être sûr de se lancer alors.
Alors non, parce qu'on paye juste au moment où on réserve.
Ah d'accord.
Donc on peut regarder, on peut discuter avec les gens, mais c'est au moment où on dit, ok, cette fois j'échange, qu'on paye 160€, ça vous donne des points qui vous permet de réserver des nuitées chez d'autres utilisateurs. Le site s'occupe aussi de vous faire un contrat d'échange, donc vous avez un contrat avec la personne avec qui vous échangez la maison, et ça vous offre certaines garanties. Si je dois résumer les deux avantages de ces sites d'échange de maison, soit vous échangez votre maison avec quelqu'un d'autre au même moment, donc c'est un échange qui est réciproque, soit vous accueillez les gens chez vous en votre absence, mais sans aller chez eux, et là vous gagnez des points et vous pouvez les réutiliser plus tard pour faire le voyage que vous voulez.
Ah oui, d'accord, vous n'êtes pas obligé d'aller chez la personne à qui vous prêtez.
Pas systématiquement.
Ah d'accord, ok, c'est intéressant.
Merci beaucoup Stéphane, votre coup de main conso à retrouver en podcast sur l'appli RMC.
La matinale week-end,
le bonus RMC.
Et ce matin, Marie, vous nous parlez d'une exposition sur le métal qui débarque à Paris. Allez, ça envoie. 8h56 pour se réveiller.
Voilà, ça fait plaisir. Rendre hommage à presque 50 ans de ce genre musical, c'est la mission de la Philharmonie de Paris après l'avoir fait pour l'électro et le hip-hop. L'exposition Metal Diabolus in Musica a ouvert ses portes hier et jusqu'au 29 septembre. Et elle va vous permettre de découvrir des archives vidéo, des photos et plus de 400 objets qui ont marqué l'histoire. Alors parmi eux, des instruments de musique, évidemment, des basses, des guitares, en veux-tu, en voilà. Vous retrouverez notamment la guitare de Slash des Guns N' Roses ou celle de Kurt Cammett de Metallica. Vous pourrez aussi admirer des costumes, des décors de scène, des œuvres d'art. D'ailleurs, tous les objets sont soit prêtés par les groupes eux-mêmes, soit empruntés dans des collections impressionnantes. Par exemple, celle de l'institution du Hard Rock Café aux États-Unis, qui détient quand même plus de 80 000 objets, et celle du Rock'n'Roll Hall of Fame. Alors, c'est évidemment une exposition qui va ravir les métalleux, mais aussi les novices. Personne ne sera mis de côté. C'est accessible à tous. Et c'est une véritable découverte ou redécouverte d'un art qui a marqué les époques.
Merci Marie, on se réveille avec donc un peu de métal ce matin sur RMC. 8h57, vous restez avec nous dans un instant, la météo suivie du journal.
RMC, la matinale week-end.